Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est jour de référendum en Alberta. Le sujet, c'est le rejet de la péréquation. L'exercice démocratique pourrait donc enclencher un débat constitutionnel. C'est ce que rappelle le prof Taillon dans sa chronique hebdomadaire. Il décortique pour nous la notion d'obligation de négocier, invention de la Cour suprême qui pourrait être utilisée par les Albertains, et estime que le gouvernement Legault n'a pas été suffisamment proactif face à cette éventualité. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Hydro-Québec, donc il va y avoir des hausses et ça fâche les partis d'opposition.
Oui, puis écoute, il faut rappeler que pendant que la CAQ était à l'opposition, ils ont martelé que Hydro-Québec devait rembourser les trop perçus, des sommes qui avaient été facturées aux Québécois en trop. Hydro le reconnaissait. Et à ce moment-là, il y avait une forte pression pour que ce soit retourné aux Québécois, bien entendu. Et moi, le premier, là, j'ai toujours souhaité que ce qui avait été pris en trop par Hydro soit remboursé. C'est une question de principe. Hein? Mm-hmm. C'était facturé en trop. Bon. Alors, ils l'ont fait jusqu'à un certain point. Là, pour rappeler aux auditeurs, on parlait de 1,5 milliard de dollars. Et Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles, a fait en sorte qu'Hydro retourne 500 millions en crédit sur les factures des Québécois, des clients d'Hydro-Québec. Et pour le reste, on a demandé donc un gel des tarifs pour l'année 2020. Et là, au gouvernement, là, publiquement, il prétendait là, que l'effet combiné du gel et de l'impact du gel sur les années subséquentes, là, plus le remboursement de 500 millions, ça faisait à peu près 1,5 milliard.
Oui.
Mais bon, on s'entend que, en tout cas, en privé, on m'avait dit, on reconnaissait que c'était pas tant que ça, mais bon. Alors, ça, c'était comme le point positif, mais en échange de ça, c'est comme s'il y avait eu une négociation et que Jonathan Julien avait permis par le fait à Hydro-Québec de pas être soumise à la régie de l'énergie pour demander une augmentation de tarifs qui doivent être accordés par la régie de l'énergie qui, elle, prend en compte toutes sortes de facteurs pour accepter ou refuser ou diminuer la hausse des tarifs. Ben, là, ça donnait comme la liberté.
Que la régie de l'énergie, ça a été créé justement pour éviter la politisation des coûts de l'énergie, des coûts de l'électricité.
Exact.
Au Québec. Tu sais, c'était dans les années 90 parce qu'il y avait un gouvernement qui promettait un gel, puis l'autre parti promettait un gel, puis là, aïe, aïe, aïe. Donc, mais là, on dirait que c'est ça, il y a eu marchandage, puis Hydro a obtenu le fait de se soustraire à la régie de l'énergie. C'est incroyable.
Ben oui, c'est ça. Et là, à ce moment-là, Jonathan Julien disait oui, mais on leur permet une augmentation selon l'inflation. Et ça, c'était avant la pandémie. Donc, on se disait, c'est pas si pire que ça. Ça sera peut-être des fois 1%, peut-être un petit peu plus d'1%. Mais, tu sais, selon les hausses des dernières années, on se disait, bon, ça risque d'être pas si pire. Mais on était méfiants. Et là, on avait raison de se méfier parce que le contexte a tellement changé. Et là, il y a de l'inflation solide.
Oui.
Et à cause de ça, Hydro-Québec peut aller chercher une augmentation de tarifs. Hydro là, reconnaît que ce ne sera pas en bas de 2,65. Il leur restait à prendre en compte les chiffres du mois de septembre. Au mois de septembre, justement, les prix ont explosé à la consommation, là, notamment pour l'essence et tout ça. Donc, ça peut pas être mieux, là. Ça risque d'être même un peu pire. Ça sera probablement très près de 3% comme augmentation de tarif d'Hydro pour l'année 2022. Et déjà pour 2021, il y avait eu 1,3. Donc, on se dit que finalement, là, avant le rendez-vous électoral, il y aurait eu une hausse de tarifs d'à peu près 4% là, quand on additionne, même un peu plus. Donc, c'est vraiment problématique. En coulisses, on dit que c'est notre journaliste Nicolas Lachance, en passant, qui a travaillé fort sur ce dossier-là. Et en coulisses...
Ben oui, un nouveau venu au bureau parlementaire.
Oui, notre nouveau correspondant parlementaire. Et au gouvernement, on craignait même...
Il arrive puis il donne des chocs électriques, c'est bon?
Oui, parce que, écoute, Nicolas avait consulté des économistes spécialisés dans cette matière-là et qui ont regardé la façon dont le calcul devait se faire dans la loi là, qui a été adoptée, comme je disais, là, par Jonathan Julien, pour changer le mécanisme de fixation des hausses de tarifs. Et eux arrivaient même à 5% là, puis un peu plus de 5% d'augmentation.
Aïe, aïe.
Et la seule raison pour laquelle Hydro dit « Ah non, mais ça sera pas si pire que ça », puis ils disent 2,6, là, c'est parce que il y a un beau terme, là, ils disent qu'ils lissent l'augmentation sur 2 ans, là, l'effet de l'inflation sur 2 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle en 2022, ce serait 2,65. Mais ça, okay. Les économistes nous disent, mais même là, le reste, on va y goûter même pour l'année suivante. Là.
Les oppositions, donc, déchirent leur chemise.
Exactement. Là, les trois partis d'opposition ont beau jeu, évidemment. On dirait, on vous l'avait dit, que tout ça, ça sentait pas bon, que ça ressemblait à une patente pour laquelle on serait pas gagnant à long terme. Et donc, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, les deux, demandent un gel des tarifs pour l'année 2022. Au PQ, on n'a pas été jusqu'à demander un gel, mais dans tous les cas, donc, on demande au gouvernement de revenir sur sa position. Et là, c'est ça qui est étrange, parce que là, maintenant, ben donc, on voudrait que la politique s'en mêle.
Ben oui.
En théorie, c'est ce qu'on veut pas, mais là, comme c'est une augmentation qui est plus élevée que ce que probablement même le gouvernement avait.
Oui, mais c'est le gouvernement qui a fait que Hydro peut se soustraire à la régie de l'énergie, parce que peut-être que la régie de l'énergie serait arrivée à d'autres propositions de hausse.
Eh ben exactement. Alors donc, on a l'impression qu'on se retrouve un peu piégé par le marchandage, comme tu as dit, le terme était parfait, qu'il y a eu entre le gouvernement et Hydro-Québec. Le gouvernement cherchait à ne pas perdre la face là, après son discours alors qu'il était dans l'opposition par rapport au trop perçu, et cherchait aussi à ne pas trop menotter Hydro-Québec. Puis là, ben, on se retrouve avec la situation dans laquelle on est.
Baromètre de popularité des ministres maintenant. Les ministres Dubé et Guilbeault se démarquent.
Oui, totalement. Un sondage léger qui montre la popularité des ministres du gouvernement caquiste. En théorie, je te dirais, pas beaucoup de surprises, dans le sens que Christian Dubé, même si on vit une situation difficile dans le réseau de la santé, présentement, le gros succès de la campagne de vaccination, ça lui a donné des ailes. Je pense que ça a marqué la population. Donc, il y a 61% des Québécois qui ont répondu au sondage, qui ont une bonne opinion de lui. C'est très, très élevé, mais c'est le plus élevé. Et ensuite, Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, à mon esprit, elle avait montré dès le départ, au début du mandat, belles qualités en communication. Je pense aussi que ce qui lui vaut l'appui du public, c'est ce qu'elle a fait depuis qu'elle a pris le dossier de la violence conjugale et de l'aide à apporter aux victimes de violence conjugale. Je pense qu'elle a bien fait à ce chapitre-là et que ça peut être aussi un facteur pour expliquer sa popularité. Yann Lafrenière fait bien. Dans le cas de Sonia Lebel, le 40% de bonne opinion à son endroit est moins élevé, par exemple, que Geneviève Guilbeault, qui a 56, mais il y a seulement 11% qui ont une mauvaise opinion d'elle, donc son différentiel, si tu veux, là, est très élevé. Ouais. Donc ça, c'est une autre ministre qui fait bien. Simon-Jolin Barrette, il est plus polarisant un peu, c'est-à-dire que 39% de bonne opinion à son endroit, mais 26% de mauvaise opinion. C'est sûr qu'avec la loi sur la langue, la loi sur la laïcité, dans certaines communautés, il est moins populaire, c'est clair.
Le cancre, ça demeure Jean-François Roberge.
Jean-François Roberge, pour lui, ça c'est vraiment, c'est sûrement des chiffres qui ont été pénibles à voir pour lui aujourd'hui, parce que 34% des gens ont une bonne opinion de lui, mais 38% ont une mauvaise opinion. Donc il y a même plus de gens déçus de Jean-François Roberge que de gens qui louangent son travail. Alors ça, c'est sûr que ça fait très mal.
Ouais.
On a remarqué cet automne semble que le gouvernement cherche à le mettre moins de l'avant.
Je trouve que c'est un euphémisme. Il cache.
Ouais, on pourrait quasiment dire qu'il
même cache. Dans le couloir, là, écoute, il passe entre la peinture et le mur, entre les portraits puis le mur.
Ouais, et puis ça, tu sais, c'est pas... On nous a beaucoup dit là à l'interne qu'il n'y a pas de remaniement, il n'y aura pas de remaniement d'ici la fin du mandat. Bon. Alors, moi, je prends pour acquis Jean-François Robert, je vais demeurer ministre de l'Éducation. Et c'est sûr que cette situation-là est tendue. Mm-hmm. Et quand tu as l'impression que ton patron, là, ouais, François Legault, n'a pas trop confiance en toi sur la scène publique, c'est sûr que ça, c'est loin d'être idéal. Pour un ministère aussi important que celui de l'éducation et qui devait être une priorité pour M. Legault. Donc, j'espère pour M. Roberge que ça va se tasser un peu. Est-ce que, tu sais, par exemple, après les fêtes, au retour en 2022, si les choses vont encore mieux, on sait que les enseignants, il y a quand même beaucoup d'irritants qui ont été réglés avec la négociation de la convention collective.
Mais il est impopulaire chez les parents, hein, beaucoup.
Mais c'est ça, ouais, exactement. C'est que c'est... À un moment donné, M. Robert a comme réussi, réussi, pas le bon mot, mais à faire un peu l'unanimité contre lui, autant comme chez les syndiqués que les directions d'école que chez les parents. Donc, à un moment donné, il faut que tu aies quelque part des gens qui...
Dans cette trinité, il faut avoir un appui. Hey, merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Puis demain, on discute du discours inaugural, le discours d'ouverture de François Legault.
Un gros mardi, ouais. Au revoir.